L'invité de la matinale.
France Inter. Le 6-9 du week-end.
Avec une question, et si la France et l'Europe, affaiblies par le coronavirus, étaient devenues les proies de pays prédateurs comme la Chine, la Russie, les États-Unis? Car c'est en ces termes de prédateurs et de proies que notre invité analyse le monde qui se dessine sous nos yeux. Bonjour François Hesbourg.
Bonjour.
Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique et vous signez donc ce livre paru chez Odile Jacob, Le temps des prédateurs, la Chine, les États-Unis, la Russie et nous. Et s'il y a des prédateurs, c'est qu'il y a des proies. Et les proies, c'est nous donc. La France, l'Europe, en train de basculer dans le camp des proies. D'ailleurs, en quoi la Chine est-elle devenue un prédateur à notre égard ?
La Chine, est, comme la Russie et les États-Unis, a une vision de l'Europe qui est très simple. L'Europe, c'est une région composée d'États dont il faut absolument éviter qu'ils s'unissent. Il faut qu'ils restent divisés afin d'être mieux exploités, afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, de coercition qui soit avantageuse, avec une perception dans le cas de la Chine, de l'Europe, comme un ensemble de pays fondamentalement mous et décadents, et qui ne méritent donc qu'un seul sort, hein, qui est celui de l'exploitation. Alors, j'ai bien, on parle de prédation, hein, on ne parle pas forcément d'inimitié.
On parle de prédation économique, pour être précis.
Prédation économique, mais aussi politique, hein, c'est l'influence politique. Et je prends un exemple très simple, hein. Et la moitié du commerce mondial aujourd'hui passe par la mer de Chine du Sud, hein, pour arriver jusqu'à nous et vers d'autres pays. Et la Chine revendique la pleine propriété de la mer de Chine du Sud, hein, qui est grande comme la Méditerranée. Et la Chine s'est débrouillée à travers l'influence qu'elle exerce, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, pour empêcher que les États de l'Union européenne n'agissent de façon unie, de façon solidaire par rapport à cette prétention chinoise. Et donc la prédation n'est pas purement économique, hein. Elle va au-delà de l'économie.
Mais il y a une forme, François Hesbourg, de mépris de la part des Chinois vis-à-vis des Européens et peut-être même vis-à-vis des Français en particulier. Que n'a-t-on dit en Chine, par exemple, sur les 35 heures, sur le fait que les Français étaient des fainéants?
Ce que vous appelez mou, nous sommes mous.
Ah, nous sommes mous, nous sommes décadents. Et si les auditeurs veulent avoir une idée de la façon dont nous sommes perçus, il y a une façon très simple de le faire, parce que c'est en français et c'est chez nous. C'est le compte Twitter de l'ambassade de Chine à Paris.
Bah, ici, il dit des drôles de choses.
Absolument, qui dit depuis des mois et des mois des choses plus ou moins sympathiques, jusqu'à prétendre que les autorités françaises avaient délibérément laissé mourir les gens dans les EHPAD à l'occasion de l'épidémie de Covid.
Mais l'ambassadeur de Chine a été convoqué, non, par Jean-Yves Le Drian?
Il a été convoqué, il a été, comme on dit dans le jargon diplomatique, traîné sur la moquette. Dans les deux ou trois jours suivants, vous avez des photos de pandas et des choses plus ou moins sympathiques sur le site. Et puis ensuite, ça reprend, hein, ça redémarre. La semaine dernière, c'était l'ambassade avait repris à son compte un dessin tellement épouvantable, une caricature d'un site complotiste tellement, qui était purement et simplement à gerber. Et alors, la bronca a été telle que l'ambassade s'est sentie obligée d'expliquer que son compte Twitter avait été hacké, ce qui ne paraissait pas correspondre à ce que l'on avait pu voir sur ce site, ni à la façon dont on peut, le cas échéant, hacker un compte Twitter.
Alors, cette Chine prédatrice de l'Europe, on va prendre un exemple, hein, celle de la 5G. Alors, on va expliquer, la 5G, c'est l'une des clés de la maîtrise de l'économie mondiale de demain. En Europe, nous ne sommes pas assez puissants pour nous passer de la technologie du chinois Huawei, par exemple?
Alors, c'est ça le paradoxe, c'est que l'Europe a au moins deux sociétés, en l'occurrence il s'agit d'Ericsson et de Nokia, deux sociétés scandinaves, et qui sont parfaitement capables de faire de la 5G, qui en vendent d'ailleurs un peu partout dans le monde, mais il est vrai que la Chine a fait une telle pression politique, je veux dire politique, pas simplement économique, à travers ses ambassades comme à travers les réseaux d'influence de la société Huawei, et qu'à la veille de l'épidémie de Covid, plusieurs États européens étaient en train de basculer dans une situation absurde où on allait chercher de la technologie chinoise au lieu d'utiliser de la technologie européenne. Nous demeurons parfaitement concurrentiels. L'affaire du Covid a mis tout ça au point mort, d'une certaine façon, fort heureusement.
Sauf qu'aux États-Unis, Donald Trump a été beaucoup plus radical, lui, que nous en Europe. Il a bloqué l'accès à la technologie du chinois Huawei. Est-ce qu'on peut dire que les Américains ont été plus visionnaires que nous en Europe concernant la prédation commerciale de la Chine ?
Oui, alors les États-Unis sont stratégiquement, politiquement, directement impliqués dans la sécurité de la région Asie-Pacifique, beaucoup plus que nous. Et donc à Washington, mais ça remonte déjà à l'époque d'Obama, on n'est pas du tout simplement sous Trump, la vision de la Chine à Washington est une vision beaucoup plus réaliste, beaucoup plus stratégique. En Europe, ça fait depuis un an ou deux qu'on a commencé à se rendre compte que la Chine, c'était pas simplement une espèce de Japon un petit peu plus grand, mais fondamentalement pas bien méchant.
Il faut dire que la Chine a tout fait pour endormir tout le monde aussi. Il y a depuis plusieurs décennies de cela, la Chine s'est faite très discrète pour mieux influencer sous le tapis, sous le manteau.
La Chine, au début des années 80, pour sortir de son sous-développement, avait adopté une formule de son dirigeant de l'époque, Deng Xiaoping, qui était un homme tout à fait remarquable, qui disait il faut que l'on arrête de se manifester à tort et à travers dans le monde, il faut que la Chine cache sa brillance. Avançons donc de façon discrète. Et pendant 40 ans, c'est ce que la Chine a fait, avec des résultats économiques d'ailleurs absolument phénoménaux. La Chine s'est sortie pour l'essentiel de la pauvreté. Elle n'a pas embêté grand monde en dehors de ses abords immédiats. Mais depuis quelques années, avec Xi Jinping, la Chine a décidé que ce n'était plus la peine d'être discret, et que l'on pouvait fort bien avoir des ambassades un peu partout dans le monde, dont l'objectif n'est pas d'améliorer les relations, mais bien de marquer la volonté d'affirmer la prépondérance de la Chine. En Europe, le réveil était effectivement tardif et un peu dur.
Mais aux États-Unis, il y a un consensus qui dirigeait vraiment, contre la Chine, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates.
C'est parfaitement exact. C'est peut-être d'ailleurs le seul grand sujet, et pas simplement de politique étrangère, sur lequel il y a un consensus transpartisan, au-delà des clivages. Et si le président Trump devait perdre les élections en novembre prochain, son successeur, vraisemblablement Joe Biden, aurait vis-à-vis de la Chine une politique qui serait peut-être, j'allais dire, plus construite, plus cohérente que celle de Trump, qui est un homme dont on connaît le caractère un peu fantasque.
Que vous comparez d'ailleurs à Guillaume II.
Fondamentalement la même politique.
Vous le comparez à Guillaume II.
Trump, oui. Trump, c'est Guillaume II, dont Bismarck, qui avait été son premier chancelier, disait que Guillaume II était comme un enfant qui attend que tous les jours ce soit son anniversaire. Et ça s'applique, je le crains, fort bien à Trump. Dans le cas de Guillaume II, comme on le sait, ça s'est pas très bien terminé.
Cela démontre en tout cas aujourd'hui que les prédateurs Chine et États-Unis peuvent aussi se menacer et l'un l'autre. Pourquoi Donald Trump, qui a parlé du virus chinois, qui parle d'un régime chinois responsable de tuerie de masse mondiale, pourquoi Donald Trump a-t-il besoin de faire de la Chine son meilleur ennemi en ce moment ?
Ben, d'abord parce que c'est un grand sujet d'accord aux États-Unis, Et il s'agit pour Trump de montrer qu'il est plus anti-chinois que Biden, et vice-versa d'ailleurs. Donc il y a un intérêt électoral assez bien compris. J'ajoute aussi que Trump, dont le caractère est effectivement fantasque, et il y a des jours où il dit beaucoup de bien de Xi Jinping. Il avait même demandé au président chinois, il y a quelques mois, de lui donner un coup de main pour essayer de trouver des boules puantes à utiliser contre Joe Biden à travers les allégations de corruption de son fils, du fils Biden, en Ukraine. Le président chinois avait, en l'occurrence assez prudemment, indiquer qu'il n'entendait pas se mêler des élections présidentielles américaines. Trump est anti-chinois, effectivement, d'abord par intérêt électoral, et à la limite davantage que par conviction. Mais l'opinion américaine, qu'elle soit
démocrate ou républicaine,
démocrate, républicaine, ou qu'il s'agisse des dirigeants, des responsables ou de la population, là-dessus, il y a un consensus très fort.
Qui confine presque au racisme anti-chinois d'ailleurs. François Hesbourg, dans votre livre « Le temps des prédateurs », donc la Chine, les États-Unis et la Russie, on cherche les atouts de l'Europe pour résister à ces prédateurs, et là, ce n'est pas très rassurant. Dans votre livre, vous écrivez avec fatalisme « L'Europe fera ce qu'elle peut ». Avec ce qu'elle a, on peut pas dire que ce soit très ambitieux.
Non, c'est pas très ambitieux. L'Europe n'est pas un prédateur. L'Union européenne, d'abord, n'est pas un État. On ne peut pas comparer l'Union européenne aux États-Unis, à la Russie ou à la Chine. Elle ne fonctionne pas comme un État. Et chacun des États membres de l'Union européenne pris individuellement, comme la France ou l'Allemagne, ne pèse évidemment pas du poids géopolitique de ces trois grands prédateurs. Donc nous sommes effectivement en mode réactif. Et on n'a pas la capacité d'organiser, comme on le faisait au XIXe siècle, et pas forcément de façon très heureuse, on n'a pas la capacité de monter un grand projet ambitieux.
Mais on n'a pas la capacité non plus de diviser le trio Chine, États-Unis et Russie.
Dieu merci, dans le rôle réactif, on a quand même de sérieux atouts. Il y en a deux. D'abord, effectivement, on peut effectivement jouer les uns contre les autres. On peut jouer, comme on le disait dans l'Antiquité, les Horaces contre les Curias. Et comme les États-Unis sont effectivement en bisbille avec la Chine, que les Européens ont par ailleurs quelques soucis, notamment en Europe de l'Est avec la Russie, nous pouvons effectivement nous débrouiller pour ne pas être en situation d'inimitié simultanément avec les trois prédateurs. Il faut jouer, suivant l'occasion, avec l'un ou avec l'autre. Notre deuxième atout, c'est que dans les domaines commerciaux et financiers, l'Europe arrive à agir comme un ensemble cohérent. Ce n'est pas le cas dans les autres domaines.
C'est Bruxelles.
C'est Bruxelles, avec bien entendu sous la houlette des États membres, mais on le voit bien dans la réaction à la pandémie. On a dit beaucoup de mal de l'Europe en disant mais elle sait pas faire ceci, elle sait pas faire cela, etc. Mais au fond, après quelques semaines, tout au plus quelques mois de prise de décision, toujours un peu lente et compliquée du côté européen, c'est comme ça qu'on fonctionne. On voit que quand on se compare aux Chinois ou aux Américains et même aux Russes, nous ne sommes pas les plus mauvais quand il s'agit de faire face à la pandémie. Nous ne sommes pas les plus mauvais lorsqu'il s'agit de faire face à la récession économique très profonde que nous allons connaître dans les mois qui viennent.
Ça, c'est pour le côté optimiste. Ouais, très bien. François Hesbourg, je vous coupe parce qu'on va aller au standard. Des auditeurs veulent vous interroger. On va aller prendre au standard 01 45 24 7000. Frédéric est en ligne. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à vous, monsieur Hesbourg. Bonjour. Je pense que vous avez probablement raison quand vous parlez des prédateurs, là, de quelques prédateurs. Mais le problème n'est-il pas que nous sommes tous prédateurs les uns des autres et surtout de la planète, On est devenu un animal tellement puissant avec un hubris incontrôlable, qu'on est en train, tout simplement, c'est une évidence, de scier la branche sur laquelle nous sommes assis.
Alors finalement, tous prédateurs, François Hesbourg ?
un prédateur, pas au sens où le renard est le prédateur de la poule, hein, ce n'est pas ce type de rapport-là. Et le propos plus général qui est-ce que nous ne sommes pas en train de bouffer la planète, si je puis dire, à une humanité plus nombreuse et plus vorace, essayant de grappiller des ressources limitées, là vous avez tout à fait raison. Mais là aussi il y a une raison d'espoir. L'Europe est de tous les ensembles économiques et politiques dans le monde celui qui, je crois, croit le plus à la nécessité d'appliquer les accords de Paris sur le réchauffement climatique. Et on voit bien d'ailleurs dans la réaction à la récession économique liée à la pandémie, et le premier objectif qui est assigné au fonds de 750 milliards et que la Commission européenne avec la France et l'Allemagne vont mettre sur pied, il faut que ce fonds alimente et l'économie verte, alimente le respect des accords de Paris. Donc on n'est pas... Les Chinois pensent qu'on est peut-être un peu mou, mais on n'est quand même pas tout à fait mou du cerveau. Hein.
François Hesbourg, il nous reste une minute. On a parlé de la Chine, on a parlé des États-Unis, on n'a pas encore parlé de la Russie parmi les prédateurs. Mais à vos yeux, cette Russie, elle a tout de même perdu de sa superbe. Hein. Elle n'est pas la superpuissance à égalité avec les autres Chine et États-Unis. Elle n'a pas les moyens économiques d'être un prédateur à la hauteur, si je puis me permettre.
Alors, la Russie est un État qui a vécu, avec la fin de l'Union soviétique, une forme de déclassement, hein, ce qui est un processus toujours très pénible. Et aujourd'hui, la Russie, au plan économique, ça pèse à peu près ce que pèse l'Espagne. Hein. Ce n'est vraiment pas une superpuissance de ce point de vue-là. Mais à l'inverse, la Russie a du territoire, à la situation géographique entre l'Europe et l'Asie qui est la sienne, qui est une position très avantageuse, et la Russie a su devenir, au plan stratégique, une puissance agile, qui agit et réagit très, très rapidement, et par ailleurs, la Russie n'est pas satisfaite de l'ordre de sécurité qui règne en Europe. À la première occasion, comme ça a été le cas en 2014 avec l'affaire ukrainienne, elle tentera de bousculer l'ordre qui est en place, qu'elle considère comme lui étant inamical.
Et aujourd'hui, ce n'est pas le départ de Vladimir Poutine qui finira bien un jour par partir, qui risque de changer les choses.
Je ne suis pas sûr. Dans les élites russes, il y a une réaction assez commune de lutte contre ce déclassement. Hein. La dénonciation de l'ordre de sécurité hérité de la fin de la guerre froide est quelque chose d'assez largement réparti en Russie. Donc bien que, comme beaucoup d'autres, j'aurais des tas de choses à dire.
Mais sur malheureusement, oui.
Et la façon d'agir de Poutine.
Mais on a
je
fini.
Je ne suis pas sûr que ce soit lui le problème.
Merci beaucoup, François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Je rappelle le titre de ce livre, Le temps des prédateurs, la Chine, les États-Unis, la Russie et nous. C'est publié chez Odile Jacob. Merci, François Hesbourg, d'avoir accepté l'invitation de France Inter et bonne journée.